Voix Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Rebondissement au Gabon après une tentative de coup d'État. Le porte-parole du gouvernement Guy Bezramapangu a fait savoir que la situation est sous contrôle et les mutins ont été arrêtés ou sont en fuite après avoir occupé un moment le siège de la radio et de la télévision nationale. Le calme est revenu, la situation est sous contrôle, a-t-il dit à l'AFP. Le porte-parole du gouvernement a ajouté que sur un commando de 5 militaires qui avaient pris le contrôle de la radio-télévision nationale dans la nuit de dimanche à lundi et appelé à un soulèvement, 4 ont été arrêtés et 1 est en fuite. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, chargée de la proclamation des résultats, a confirmé qu'elle ne pouvait rien annoncer au moment de la date butoir ce dimanche, une date qu'elle avait elle-même fixée. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes à 53% de compilation des résultats. Le travail n'est pas terminé. Impossible donc d'annoncer les résultats ce dimanche comme prévu a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga a maintenu davantage le flou en affirmant ne pas pouvoir dire quand les résultats provisoires seront disponibles. Peuple congolais, soyez calme. J'entends dire par chacun des camps qu'ils sont en tête, mais cela n'a aucune valeur, car seule la CENI peut publier les résultats. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner les vrais résultats. Le peuple sera content d'avoir ce résultat, a par ailleurs précisé, puis promis, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga, qui annonce également être l'objet des menaces nationales et internationales, déclare qu'il n'acceptera aucune menace et demande de laisser le travail de la CENI se faire en toute indépendance. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les avis divergent après la formation d'un nouveau gouvernement vendredi dernier. Les Camerounais rencontrés à Yaoundé sont notamment partagés sur le maintien de certaines personnalités dans l'équipe gouvernementale. À Yaoundé, nous retrouvons la correspondance d'Emmanuel Gélenta.
Après le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun, de nombreux Camerounais avaient demandé des sanctions contre les responsables de cet échec. Mais le président Paul Biya n'a pris aucune sanction contre les présumés responsables en formant le gouvernement le 4 janvier dernier. Alvin Henry Assembendi est membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Elle explique ce choix du président Paul Biya.
Au niveau du RDPC, nous avons parlé de glissement, nous n'avons pas parlé de perte. Les responsabilités n'ont pas encore été indiquées. Nous pensons que si commission d'enquête il y aura, on attendra les résultats et après les coupables paieront.
Un point de vue que de nombreux Camerounais ne partagent pas. Salomon, par exemple, est un jeune employé du secteur privé à Yaoundé. Pour lui, ce premier gouvernement d'après élection présidentielle du 7 octobre dernier ne répond pas aux attentes du peuple.
Vu le contexte dans lequel s'est déroulée les élections présidentielles au Cameroun, pour un début de mandat, l'option du réaménagement est véritablement frustrant. On a l'impression que certaines personnes dont le peuple voulait la tête sont restées au gouvernement. Ce qui donne l'impression aux Camerounais que finalement, il n'y a rien à attendre de cette nouvelle équipe.
Par ailleurs, aucun membre de l'opposition n'a fait son entrée dans ce nouveau gouvernement. Pas même le candidat du parti Univers lors du scrutin présidentiel d'octobre dernier. Cabral Libi a tout simplement décliné l'offre selon son directeur de campagne, Armand Okol.
Je vous confirme qu'il a été consulté à plusieurs reprises. Il a simplement rejeté pour deux raisons au moins. Quand on voit la manière avec laquelle le gouvernement fonctionne, on n'a pas le sentiment qu'on peut avoir les mains libres à implémenter sa vision à soi. La deuxième des choses, c'est qu'il est porteur d'un projet de société, ne cadre pas avec la manière dont les choses sont faites.
Le nouveau gouvernement du Cameroun compte plus de 60 membres. Il entre en fonction dès ce lundi, soit plus de deux mois après la prestation de serment du président Paul Biya. Joseph John Nguté, premier ministre, est un homme heureux. Quelques minutes après sa désignation, il a fait cette brève déclaration à la presse.
Quand le chef de l'État m'a convoqué, il m'a dit qu'il m'avait choisi comme son prochain Premier ministre. Évidemment, j'étais très ému, sachant que la tâche est vraiment difficile, c'est élevé, mais je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour que le chef de l'État soit satisfait de ma prestation.
Yaoundé, Emmanuel Jiruntap, VOA Afrique.
Les forces de sécurité ont arrêté dimanche deux journalistes à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, pour des articles sur l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Une équipe composée d'agents des services de renseignement, de soldats et de paramilitaires ont effectué une descente musclée dans le bureau local du quotidien Daily Trust et interpellé son rédacteur en chef, Atman Aboubakar, et un journaliste, Ibrahim Sawab. Ils ont aussi saisi les ordinateurs portables et les téléphones portables des deux journalistes lors de leur arrestation, selon l'AFP. Des soutiens du président soudanais Omar el-Béchir prévoient de tenir mercredi un rassemblement pro-régime dans la capitale Khartoum, alors que la police a dispersé dimanche à coups de gaz lacrymogène des manifestations antigouvernementales dans plusieurs villes du pays. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation déclenché par la hausse du prix de pain et les pénuries dans un pays en plein marasme économique. Les protestations se sont vite transformées en un mouvement contre le régime de M. Béchir, qui s'est emparé du pouvoir par un coup d'État en 1989. Au moins 19 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation. Selon les autorités, Amnesty International a fait état de la mort de 37 manifestants et l'ONU a appelé à une enquête indépendante. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré dimanche une gigantesque cathédrale près du Caire à l'occasion de Noël copte sous haute sécurité. La veille au soir, dans un nouvel incident visant la communauté copte, un commandant de police spécialisé dans le déminage a été tué au Caire en tentant de désamorcer une bombe près de l'église Al-Azra Waoubou Sifin, selon des sources au sein des services de sécurité.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 6h06 dans la capitale américaine. Pas de fin de shutdown en vue ici à Washington. Donald Trump a raillé affirmé dimanche sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique, reconnaissant qu'il ne s'attendait pas à une avancée des tailles. Lors des discussions menées dimanche sous l'égide du vice-président Mike Pence, M. Trump a annoncé des discussions de fond à venir lundi, mardi et mercredi et de nouveau évoqué sans s'y attarder la possibilité d'avoir recours à une procédure d'urgence le permettant de contourner le Congrès. En l'absence d'accord sur une loi budgétaire entre républicains et démocrates, la paralysie partielle de l'administration fédérale est entrée dans sa troisième semaine. Quelques 800 000 fonctionnaires sont touchés, des musées ont été contraints de fermer leurs portes et des ordures s'entassent dans les parcs nationaux. Le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a affirmé dimanche à Jérusalem que le retrait américain de Syrie devait se faire de telle sorte que la défense d'Israël et d'autres amis de Washington dans la région soit absolument assurée. M. Bolton a également souligné que le retrait militaire américain de Syrie, annoncé le mois dernier par le président Trump, tiendra également compte de ceux qui ont combattu avec nous, fin de citation, contre l'organisation de l'État islamique et d'autres groupes terroristes. Négociateurs américains et chinois ont entamé aujourd'hui à Pékin des discussions pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières économies du monde, Donald Trump et Xi Jinping, avaient alors convenu de se donner un délai de 3 mois jusqu'au début du mois de mars pour essayer de mettre fin par la négociation à leur affrontement à coups de droits de douane. Les deux parties restaient très discrètes sur le déroulement des discussions dont le lieu n'a même pas été révélé. Pékin a simplement précisé vendredi qu'elle aurait lieu ce lundi et demain mardi. En Grande-Bretagne, les vacances parlementaires sont terminées. La première ministre Theresa May replonge cette semaine donc dans les affaires du Brexit et tentera une nouvelle fois de convaincre les députés britanniques de ne pas enterrer l'accord de sortie de l'Union européenne conclu avec Bruxelles. Les députés reprendront mercredi l'examen de ce traité de retrait de l'Union européenne, âprement négocié durant 17 mois, mais dont l'adoption semble très compromise en raison des multiples critiques dont il fait l'objet. Le texte est vilipendé tant par les Brexiteurs qui craignent une forme d'arrimage permanent à l'Union européenne que par les europhiles espérant encore pouvoir faire marche arrière. Initialement prévu le 11 décembre, le vote sur l'accord avait été reporté la semaine à la dernière minute par Theresa May pour éviter une défaite annoncée. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.